sur l'Europe de la santé qui introduit donc ce petit cycle qui a été organisé. Tout d'abord, je ne sais pas si tous avaient pu entendre du think tank qu'on a commencé à créer il y a quelques années sur l'Europe de la santé qu'on a créé en 2018 avec des jeunes, des assos étudiantes et les assos étudiantes elles-mêmes pour parler Europe de la santé initialement dans le cadre des élections européennes de 2019. Puis un travail qui s'est poursuivi avec pour objectif de donner aux jeunes et futurs professionnels de santé une vision déjà des questions européennes qui est peu connue, mal connue, et surtout de nous donner une possibilité d'être audible au niveau de l'Europe et pas seulement de façon silaire et de façon séparée, mais d'une vision collective des jeunes et des assos étudiantes. C'est des propositions, des prises de position qu'on avait pu mettre en place pour les élections européennes initialement, avec un manifeste de 24 propositions sur l'Europe de la santé qui avait été réalisé à ce moment-là. Et un premier colloque que l'on avait organisé à l'Académie de médecine avec les candidats aux élections européennes pour pouvoir mettre notre vision de l'Europe en premier plan. Ensuite, ce think tank s'est continué avec là des enjeux récents qui vont arriver avec la présidence française et au niveau français, les élections qui vont pas tarder maintenant, parce qu'on rentre tous dans le vif du sujet, et également le PLFSS qui est en cours actuellement et une vraie volonté de pouvoir avoir une visibilité sur ces sujets. C'est déjà une opportunité avec la présidence française de mettre au débat public les questions européennes qui sont beaucoup trop inaudibles actuellement, et en particulier la question des maladies rares qui a des enjeux majeurs sur le plan économique, sanitaire, industriel, mais également politique, et c'est ce qu'on souhaitait aborder ce matin. Je vais tout d'abord donner la parole à Chloé Lebeau qui va introduire cette petite table ronde.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'aujourd'hui ouvrir cette rencontre consacrée, comme l'a dit Isabelle, à l'engagement des jeunes, des experts et des politiques aussi dans la construction d'une Europe de la santé auprès du think tank et des associations nationales étudiantes. Il est important tout d'abord de remercier les intervenants, de prendre le temps pour cet échange, ainsi que les jeunes pour leur engagement et leur présence parmi nous aujourd'hui. Je remercie également les membres du think tank et NIL, bien évidemment, pour leur initiative et l'organisation de ce colloque qui promet d'être très qualitatif. Comme l'a dit Isabelle, ce think tank est né en 2018 d'un désir commun d'appuyer et de propulser dans le débat public les questions de santé au niveau européen. Les jeunes se sont donc alliés aux experts et ont trouvé ainsi une plateforme pour associer un regard neuf et différent aux enjeux actuels et à venir en matière de santé. On le voit bien, la multidisciplinarité est au rendez-vous, permettant la construction de réflexions transversales pour nourrir et animer le débat public sur la santé dans toutes ses dimensions. Ceci va répondre à un souhait que nous avons en tant que professionnels et étudiants en santé de nous engager au service du patient et de la collectivité. En ce qui concerne la dimension européenne de ces réflexions, eh bien aujourd'hui, elle est indéniable. Vous le savez, la pandémie de la COVID-19 a mis en valeur cette nécessité d'ascendance réellement de l'Europe de la santé, notamment par un approvisionnement continu des produits pharmaceutiques, une gestion de crise organisée et des moyens mis en commun pour lutter contre les menaces émergentes. C'est vraiment ces particularités d'une Union européenne en matière de compétences qui va en faire un objet passionnant pour les étudiants en santé, qui seront engagés donc pour un soin efficace, juste et équitable. Mais on peut se demander, est-ce que cela fait des jeunes en partie légitimes pour s'exprimer sur les questions européennes de santé? Eh bien, la réponse est évidente. Citoyens européens par nature, l'Union européenne est ancrée structurellement dans les valeurs des étudiants français. Il est donc naturel, mais aussi essentiel que l'on s'y engage. En effet, on ne peut pas se contenter d'inclure les jeunes uniquement sur les sujets de jeunes. Comme reconnu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pendant l'État de l'Union, l'Europe a besoin de toute sa jeunesse, car les jeunes doivent pouvoir façonner l'avenir de l'Europe, faisant ainsi de 2022 l'année européenne de la jeunesse. La crise nous l'a bien montré, et si vous en doutez, on peut se demander quel aurait été l'état actuel des États européens sans l'engagement des étudiants en médecine, en pharmacie, sage-femme, soins infirmiers et kinésithérapie. Les étudiants ont prouvé qu'ils étaient forts et qu'ils étaient capables de prendre leurs responsabilités. Cette immersion dans les systèmes de santé, bien qu'anticipée pour certains, nous a donné l'expérience professionnelle au même titre qu'une légitimité plus que jamais affirmée. Nous attendons aujourd'hui de grandes discussions autour de thématiques qui nous semblent primordiales et prioritaires. Tout d'abord, la question des maladies rares que l'on va aborder aujourd'hui fait écho à nos ambitions pour un soin efficient et équitable et où l'innovation dans les thérapeutiques est désirée. Sur ces questions, l'Union européenne va avoir un devoir pour ses citoyens de devenir leader d'attractivité pour la recherche afin d'aboutir à la transition européenne qu'on appelle souvent d'une logique palliative à une logique curative à la hauteur des besoins des malades. Ensuite, on l'a dit, l'interdisciplinarité est l'essence de ce think tank et il en va de même concernant la santé de demain. Le déploiement en Europe du concept One Health, notamment concernant la prévention et la lutte contre les maladies émergentes, dont le seul exemple de l'antibiorésistance appuie son importance, nous paraît aujourd'hui vital. Ce concept va matérialiser la capacité de l'Union européenne à se coordonner autour d'actions jointes et la force d'une union qui va rassembler les pouvoirs pour une cause commune. Enfin, on ne peut construire ce débat sans reconnaître l'engagement du Parlement européen et de nos eurodéputés qui ont été force de proposition dans la construction d'une Europe de la santé, aujourd'hui plus ancrée au sein de l'Union. Il est donc important aujourd'hui de dresser le bilan demi-mandat de nos eurodéputés, ainsi que leurs perspectives pour les années à venir, notamment au moment où la France prendra les rênes du Conseil de l'Union européenne. Maintenant, pour conclure ce colloque est important et les discussions qui se porteront entre politiques et parties prenantes dont les jeunes font indéniablement partie ne doivent être qu'un début de travail collaboratif dans la construction de l'Europe de demain. Merci à tous.
Merci beaucoup Chloé pour cette introduction. Donc on va pouvoir se pencher vraiment sur cette table ronde sur la question des maladies rares. Avec vraiment moi, des questions que je souhaiterais qu'on aborde sur l'expérience des patients dans leur parcours de soins et la représentation au niveau européen, mais aussi l'industrie, leur place, qui collabore de façon très proche avec ces associations de patients et la place de la France dans ce développement. On souhaiterait également faire une prospective des enjeux européens liés à l'arrivée des nouvelles thérapies qui vont fortement transformer la question des maladies rares dans les prochaines années. Et on a avec un vrai souhait de centrer cette table ronde autour des malades, comme devraient être toutes les politiques de santé sur ce thème, et constituer une meilleure vision des besoins et être au plus près des revendications pour avoir une vraie cohérence dans la prise en charge et dans les propositions qu'on pourra faire dans les suites de ce colloque. Je vais tout d'abord vous donner la parole pour vous présenter. Pour vous présenter rapidement avant qu'on rentre dans le débat, je vais laisser Madame Angélique Sauvestre commencer. Donc juste une petite présentation rapide, après on vous donnera vraiment la parole sur le sujet.
Bonjour, je suis donc Angélique Sauvestre, je travaille pour l'association Des Bras France depuis maintenant 3 ans et je vous expliquerai tout à l'heure peut-être un peu plus en détail ce que fait cette association.
D'accord. Chloé Lebeau.
Bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Levas et je suis vice-présidente de l'EPSA, l'Association européenne des étudiants en pharmacie. Et cette association représente plus de 100 000 étudiants dans 36 pays européens et on est engagé sur toutes les questions de santé, de jeunesse, d'éducation au niveau européen, très proche de nos membres dont la France fait partie.
Monsieur Barouki, je vous laisse...
Bonjour à toutes et à tous. Antoine Barouki, je suis le directeur général d'Alnylam. Que je présenterai après, c'est une biotech, une start-up, et je suis aussi membre de Orphan Organization 7, qui est un groupement de biotech, de start-up qui ont des traitements innovants. En fait, c'est des petites structures dans les maladies orphelines, et on pousse énormément d'idées, de réformes, pour toujours centrer autour de l'innovation, l'attractivité de la France et la disponibilité des produits pour les patients.
Donc ensuite, Madame Saint-Raymond.
Oui, bonjour Agnès Saint-Raymond, je suis pédiatre. J'ai travaillé à l'hôpital, dans l'industrie pharmaceutique, à l'Agence française du médicament, qui est maintenant la ANSM. Et depuis 20 ans, je travaillais à l'Agence européenne et j'ai été responsable en particulier du secteur des médicaments orphelins jusqu'en 2013 et plus récemment des affaires internationales de l'agence et donc continuant à regarder la collaboration internationale pour les maladies rares. Merci.
Et ensuite, pour conclure, pour finir, Madame Lapointe.
Oui, bonjour. Je suis chef de projet à la mission maladies rares au ministère de la Santé. Et c'est une mission qui a pour objet de piloter le troisième plan maladies rares, qui est un plan interministériel. Donc, j'agis moi aussi en transversalité entre nos différentes administrations centrales et avec le ministère de la Recherche surtout, puisque ce plan a vraiment ce double pilotage. Merci.
Donc, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Avec Madame Sauvestre, avec votre association des Bras France que vous allez nous présenter un peu plus en détail, vous représentez les patients et en particulier les patients atteints d'épidermolyse bulleuse pour travailler sur leur prise en charge en France en particulier, mais également en lien avec les réseaux internationaux et ça, c'est vraiment une partie qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les champs d'action des Bras France et les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de vos actions et également quels sont pour vous et pour votre association les grands enjeux pour les patients atteints de maladies rares?
Alors, l'association des Bras France regroupe effectivement les patients, les personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare qui touche la peau et aussi parfois les muqueuses, qui rend cette peau extrêmement fragile. Le moindre frottement, la peau se décolle et provoque des bulles qui laissent place à des plaies à vif qui vont avoir du mal à cicatriser et qui vont avoir tendance à récidiver constamment. Donc voilà, ces patients atteints d'épidermolyse bulleuse sont recouverts de pansements. Je suis moi-même maman d'une petite fille qui a 7 ans, qui est atteinte de cette maladie et j'ai dû apprendre, comme beaucoup de ses parents, à devenir au quotidien une infirmière et à prendre soin de cet enfant. L'association des Bras France existe depuis 1985 et regroupe un peu plus de 300 adhérents. Nous sommes également membres du réseau international des Bras. Je travaille actuellement à essayer de coordonner une réunion, une première visioconférence avec tous les des Bras européens. Des Bras France faisait partie à l'origine des pays fondateurs du réseau des Bras Europe avant qu'ils ne deviennent des Bras internationales. Je me suis moi-même impliquée dans cette association lorsque ma fille avait 1 an, consciente qu'on avait certainement un rôle à jouer sur l'avenir de nos enfants et refusant de rester les bras croisés, simple victime d'un aléa génétique. Donc pour moi, il y a plusieurs thématiques que j'aimerais aborder ici aujourd'hui avec vous. La première, c'est celle de la question de la reconnaissance des associations de patients. On a beaucoup parlé pendant la crise du Covid des travailleurs de l'ombre. Je pense que les associations de maladies rares sont aussi trop souvent des travailleurs de l'ombre. On n'imagine souvent pas la quantité de travail que suppose cet investissement associatif. On imagine souvent une armée de Mexicains, or ce n'est pas le cas. Hein. C'est souvent des bénévoles qui essaient de jongler entre leur vie personnelle et leur vie privée, entre leur vie et leur vie professionnelle, pardon, et la maladie, bien entendu. J'aimerais pourtant rappeler le travail colossal qu'elles fournissent, ces associations, que ce soit en termes d'accompagnement et de soutien des familles, de soutien de la recherche via la levée de fonds. Beaucoup de recherches fondamentales ont été financées grâce aux associations et ont permis d'identifier de nombreux gènes responsables de nos maladies. On voit d'ailleurs sur ce point de nombreuses inégalités au niveau des pays européens. Certaines de ces associations bénéficient de subventions de leurs États. D'autres non. Ce n'est pas, malheureusement pas encore le cas de notre pays. J'espère que nous tendrons à aller plutôt vers le haut. On voit également qu'il y a des États qui doublent la mise des sommes investies par les associations de patients dans la recherche, ce qui serait extrêmement encourageant pour continuer à se mobiliser pour lever des fonds à cet effet. Je pense qu'il est important de se poser la question de la reconnaissance de ces associations, surtout qu'on voit bien aujourd'hui, et on en est ravis, hein, qu'elles sont de plus en plus sollicitées pour s'investir dans les différentes institutions. C'est un très beau chemin vers la démocratie sanitaire, mais il faut quand même se poser la question de concrètement comment on peut rendre tout cela possible pour ce monde qui reste aujourd'hui, pour les maladies rares en tout cas, qui repose essentiellement sur des associations constituées de personnes exclusivement bénévoles. Je fais partie pour ma part des quelques exceptions. Mon conseil d'administration a souhaité professionnaliser cette association et ce qui nous a incité, c'est d'observer nos pays voisins, voir comment faisaient les autres et les pays très clairement qui aujourd'hui mènent des actions les plus actives, qui ont réussi à faire connaître et reconnaître davantage leur maladie, sont ceux qui ont professionnalisé les associations. Donc voilà, aujourd'hui, j'y consacre tout mon temps et toute mon énergie. On constate aujourd'hui que les associations contribuent déjà à combler la pénurie de personnel médico-social et paramédical. Je vois, par exemple, mon association a fait le choix d'avoir recours à la rémunération d'une psychologue qui est mise à disposition de nos adhérents, à une infirmière qui accompagne les familles dans la formation des soins, puisque, comme vous l'avez compris, les soins cutanés et infirmiers sont importants. On a également des personnes qui sont à même de pouvoir accompagner les personnes dans le remplissage de leurs dossiers auprès des maisons départementales des personnes handicapées, etc., etc., du fait de la pénurie d'assistantes sociales également. Ça soulève pour moi, ces points-là, une inquiétude importante, c'est qu'on attend demain des associations de faire encore plus qu'aujourd'hui. On sait bien que la crise du Covid n'a rien arrangé à la problématique de la fuite des acteurs médicaux vers les structures privées. De la difficulté de trouver du personnel, mais aussi de le pérenniser. Or, dans nos maladies rares, c'est extrêmement important d'arriver à personnaliser, à pérenniser ces personnels, puisque c'est souvent des maladies complexes qui prennent du temps à comprendre. Il y a une autre question qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de la coordination des soins. Sur nos maladies rares, il ne faut pas oublier que souvent, les patients ils font des centaines de kilomètres pour se rendre dans le centre expert de leur maladie, hein, le plus souvent un centre de référence maladies rares. On n'imagine pas l'épuisement et à quel point tout cela contribue au fardeau de la maladie, de devoir coordonner tous ces acteurs médicaux qui tournent autour des patients. Surtout, c'est d'autant plus vrai pour des maladies qui nécessitent des prises en charge pluridisciplinaires. Il faut souvent essayer de mettre en place des relais en locaux parce que ça peut quand même arriver aussi d'avoir les maladies communes à tout le monde. Donc là-dessus, pour moi, il y a un vrai travail à faire. On sait qu'en plus, souvent, ces centres experts sont quand même hébergés dans des grosses structures hospitalières. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que plus on est nombreux, plus la coordination est compliquée et plus faut de monde. Donc voilà, déjà en interne de ces grosses structures, la coordination est souvent un point qui pêche, et c'est encore plus vrai quand il faut coordonner tout ça avec un relais local d'un patient qui vient de centaines de kilomètres. Là-dessus, moi, j'attendrai vraiment, je rêve demain de voir au niveau européen une vraie solution qui serait, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler un dossier médical partagé, hein, mais une sorte de plateforme où le patient est maître des données qu'il met dedans et décide avec qui il souhaite partager ses données. Voilà, ne plus avoir demain à faire moi-même, à transmettre mes comptes rendus d'hospitalisation, enfin ceux de ma fille, à la pédiatre de proximité et à tous les professionnels en libéral qui gravitent autour de ma fille. Ensuite, il y a une question qui m'interpelle particulièrement, c'est celle de la disparité des prises en charge au niveau européen. Alors vous me direz, c'est déjà vrai au niveau national, pourquoi ça ne le serait pas au niveau européen ? Mais je pense qu'il y a beaucoup de différences là-dessus en termes, par exemple, de délai de rendu d'un diagnostic, de capacité à faire des analyses moléculaires, si je prends le cas de l'épidermolyse bulleuse, et là encore aussi de rendu de ces résultats, en termes de coordination de soins, de prise en charge psychologique, c'est un autre penchant souvent trop absent de nos maladies rares. La question du lien réseau ville-hôpital. On voit bien qu'il y a de très importantes disparités. Il me semble indispensable d'évaluer ces aspects avec des indicateurs objectifs, pas pour taper sur les doigts des pays à la traîne, comme c'est souvent la crainte des acteurs concernés, mais plutôt pour les aider à identifier où sont leurs marges de progression. Il y a également la question de... Ok, je dévassais. Ok, très bien.
Désolée. C'est
pas grave.
On continuera sur les questions.
J'avais presque fini de toute façon.
On va laisser Chloé continuer. Chloé, vous représentez les étudiants en pharmacie au niveau français, mais également international. On le sait, hein, il y a des limites à la formation actuelle des étudiants européens, en particulier en pharmacie, sur les maladies rares, mais également dans l'ensemble des filières. Quelles seraient, d'après toi, les pistes de réflexion pour pallier à ces lacunes et mieux sensibiliser les étudiants et les jeunes professionnels de santé sur ce sujet ?
Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de disparités au niveau français et européen et beaucoup de lacunes dans notre formation. Il y a des lacunes, notamment sur le volet scientifique. Donc, on est très peu sensibilisé à tout ce qui va être... maladies rares et également la pédiatrie, puisque la pédiatrie représente enfin 75% de maladies rares sont en pédiatrie. Donc c'est des volets qui sont très peu abordés dans nos cours, notamment parce que ça représente un domaine de niche. Donc c'est déjà quelque chose de manquant. On manque aussi de formation sur le volet économique, notamment pour les étudiants en pharmacie qui vont se diriger dans l'industrie, un peu sur comment réfléchir pour développer une industrie qui pourrait venir en aide aux maladies rares et investir dans les maladies rares. C'est des choses qu'on nous apprend très peu. Ensuite, comme il a été dit juste avant par Madame Sauvestre, le traitement des maladies rares, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, malheureusement, c'est quelque chose qui est encore très peu développé au sein de notre formation, à la même hauteur que les soft skills et tout ce qui va être parcours continu, donc après la maladie. C'est des choses... on a une formation qui, pour l'instant, est très axée scientifique, avec trop peu, à mon avis, de formation humaine qui fait... Bah, pour des maladies où les traitements ne sont pas encore 100% efficaces ou bien on n'a pas assez de connaissances sur les traitements, c'est un volet qui est très très important pour le patient et qui permet également de supporter la maladie un peu plus longtemps. Donc c'est des choses qui sont absolument importantes à intégrer dans la formation. Donc comme piste de réflexion, bien sûr, ça serait tout d'abord, et je pense que c'est la chose la plus facile entre guillemets à aborder, ça va être d'inclure la pédiatrie dans la formation des professionnels de santé. Malheureusement, c'est une compétence qui reste aux États membres. L'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui au niveau des formations. Il y a tout de même ce qu'on appelle les qualifications professionnelles, donc la directive des qualifications professionnelles, qui permet de quand même poser un espèce de socle à la formation des étudiants européens. C'est déjà quelque chose qu'on pourrait inclure dans ce socle, entre guillemets. Ensuite, en ce qui concerne les soft skills, c'est un paramètre qui relate un peu de la formation, mais aussi un peu plus du domaine humain. Ce sont des choses qu'on va acquérir au long de l'expérience avec les professionnels, au niveau des stages, etc. Donc, c'est des choses pareilles qui peuvent être présentées, sensibilisées au niveau européen, pour un peu inciter les États membres, puisqu'il y a déjà une bonne partie des États membres qui se basent énormément sur les conseils de l'Union européenne. Il y a également, par exemple, les ERN. Donc, les ERN qui sont des réseaux de référence européens qui a été initié en 2017 par la Commission européenne et qui a pour objectif donc d'éradiquer les inégalités et plus spécifiquement pour les maladies rares. Il y a 4 réseaux nationaux de ERN. Donc, c'est des choses, par exemple, allier les étudiants avec ces ERN pour qu'ils puissent être plus proches du terrain, comprendre, être sensibilisés à ceci, mais aussi acquérir les soft skills qui manquent dans notre formation. Ça serait déjà un très bon début.
Merci beaucoup, Chloé, pour ce message qui nous rappelle quand même que l'Europe a des poids d'action qu'on oublie souvent. Et maintenant, je souhaiterais passer la parole à Monsieur Barouki. Sur le plan de l'industrie, la France est vraiment un leader européen sur le champ des maladies rares, avec en particulier un rôle moteur qu'elle avait pu avoir sur le premier plan maladies rares, sur le règlement orphelin, mais également sur la place d'Orphanet, qui est une plateforme majeure. Est-ce que vous pouvez nous faire état de la manière dont les différentes normes et programmes européens nous ont été utiles dans la recherche et le développement des thérapies innovantes, et en particulier, quelle est votre vision sur les actions mises en place au niveau de l'Union européenne et de la France dans ce domaine?
Merci. Donc, moi, je vais faire un constat. Je vais commencer par le constat positif, parce que ce qu'il faut dire, qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Comme vous avez dit, la France est leader. Et surtout, je vais commencer par le règlement orphelin. En fait, on voit bien, donc là, c'est un règlement qui est ancien, qui a été mis depuis 2002, même avant, dans les années 90. où on avait ce qu'on appelle les désignations maladies orphelines et qui permettaient de développer des produits. Donc avant ce règlement, il y avait 7 médicaments orphelins. Aujourd'hui, on a dans l'Union 160 médicaments orphelins. Donc on voit bien que le fait de donner une désignation de maladie orpheline, et il y en a aujourd'hui aux alentours de 710 désignations. Évidemment, ce qui a été pointé par les précédentes personnes, la pédiatrie reste à améliorer. On a plus des OD, en fait, des orphan designations qui sont plus pour l'adulte, pour des développements. Donc il y a un règlement peut-être orphelin pédiatrique à renforcer. C'est détecté par par l'Europe. Donc ça, c'est un sujet, je pense, important pour la présidence européenne, parce que je dirais tous les interlocuteurs, et je pense que Mme Lapointe me rejoindra aussi sur ce point. Et on voit bien que ce règlement orphelin a amené beaucoup d'essais cliniques, donc du développement de médicaments, mais aussi des essais cliniques. Par exemple, nous, à l'INILAM, on a pratiquement tous nos essais en Europe, la France aussi a une bonne place, même l'Europe dépasse les États-Unis au niveau recrutement, au niveau… Et les essais cliniques, c'est important parce que c'est la prédisponibilité du produit pour les malades, pratiquement. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important que le reste. Donc ça, je pense, c'est quelque chose de bien et je vais revenir sur ça parce qu'il ne faut pas il faut qu'on l'améliore, il ne faut pas qu'on revienne en arrière sur ce sujet, et ça c'est important, et on a l'impression parfois qu'il y a des mouvements, des vents contraires à ce règlement orphelin. Deuxième point, je pense, et ça, Madame Lapointe et je pense Madame des interlocuteurs seront avec moi, la France a beaucoup contribué, parce que dès le départ, l'INSERM avec Orphanet, après les réseaux des maladies rares qu'on a fait, des réseaux européens, avec les plans maladies rares, on est au troisième, donc on a influencé énormément la restructuration des acteurs autour de la maladie rare avec une dimension soins qui est importante. Donc ça c'est important et je pense que c'est aussi quelque chose dans la présidence française qui est importante, c'est de remettre aussi, on voit bien la réclamation, la place des associations, la coordination, la disparité, l'équité en fait. Je pense ça aussi, la présidence française peut le mettre au jour. Évidemment, il y a des vents contraires. Ces vents contraires, c'est de dire oui, mais il faut revoir, il y a des abus, c'est pas, ça ne bénéficie pas tout le temps ces règlements, le règlement ou ce qui a été mis en place pour tous les patients. Je pense qu'il faut, et ça c'est une posture, je dirais, qu'on doit tous avoir, il faut combattre les abus, hein. Par contre, il ne faut pas détruire ce qui est bien. Donc, on peut regarder et faire des avancées. Par contre, on a un acquis sur lequel on va bâtir. Et moi, j'irai encore plus loin. Je pense que ce qui manque aujourd'hui au niveau européen, c'est une politique industrielle dans les maladies rares. On voit bien que la plupart des startups, des biotech, c'est des startups qui sont hors Union, qui viennent, qui font du développement, des investissements, c'est très bien, ils mettent à disposition les produits. Par contre, il faut émerger un cycle économique fort pour que notre recherche fondamentale amène les maladies rares à nos patients aussi et qu'elles s'exportent aussi. Et là, on voit bien qu'il y a une problématique industrielle et la maladie rare, et c'est ce que j'insisterai, c'est un bon modèle parce que la maladie rare, c'est l'innovation. On valide, par exemple, je prends Alnylam, la classe thérapeutique a été validée dans les maladies rares et après, elle va aller dans les maladies prévalentes. Le LNP, les nanoparticules lipidiques, ils ont été validés par les maladies rares. Aujourd'hui, c'est le vecteur qui est utilisé dans les vaccins COVID. Donc, on voit bien que l'entrée de l'innovation, c'est en quelque sorte la maladie rare. Et je pense, vu la souveraineté qu'on veut au niveau français et européen, on a intérêt à penser, et là, la présidence française est aussi importante, à penser d'une manière holistique, de la recherche fondamentale jusqu'aux startups. Parce que ce qu'il faut savoir, que 70% de l'innovation vient des startups. Donc, évidemment, on a un peu tendance à privilégier les groupes existants. Mais les groupes existants, je dirais, ils n'ont pas besoin d'incentives, en fait. C'est la recherche qui a besoin de la pousser vers la biotech. Donc, c'est ces éléments-là. Il y a l'assessment qui est l'HTA, en fait, l'HAS européenne. Je pense aussi que ça mérite. Il y a eu une saisine du ministre de la Santé pour l'HAS, mais aussi ça s'applique au niveau européen. C'est de simplifier et d'adapter les évaluations des médicaments qui ont besoin des médicaments orphelins. Par exemple, même en France, parfois, quand on a des désignations orphelines, ils ne sont pas pris en considération dans les évaluations HAS. Donc, il y a une harmonisation pour essayer d'accélérer l'accès aux patients. Donc, il y a énormément de chantiers. Ne cassons pas ce qui marche, améliorons ce qui marche et allons encore plus loin pour la souveraineté, parce qu'on a des bons chercheurs et il ne faut jamais être dans l'opposition. C'est un continuum pour arriver à mettre en place des médicaments pour les patients et c'est la collaboration de la recherche. L'association de patients est importante. Le patient lui-même qui rentre dans les essais cliniques est important. Et la formation, parce qu'il faut détecter aussi les maladies le plus tôt possible. Donc, je rejoins les pharmaciens, les médecins. Il faut qu'ils aient le réflexe maladie rare dans leur cursus. Et c'est ce qui est le plus important pour réussir tous ensemble.
Merci beaucoup pour ce petit mot qui porte quand même de l'espoir sur ce qu'on fait et les projets qui ont pu être portés. Docteur Saint-Raymond, les acteurs publics et privés sont incités à collaborer pour la recherche et le développement des traitements dans les maladies rares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les dispositifs qui sont mis à disposition des entreprises pour pouvoir s'engager dans le champ des maladies rares? Et en particulier, en écho avec les interventions précédentes, quel est pour vous le bilan des actions européennes qui ont été menées en la matière? Et en particulier, quelle est la place de la France sur ces sujets?
Merci. Je vais d'abord, merci de m'inviter. Je précise que je parle à titre personnel puisque je ne suis plus à l'agence, je suis à la retraite depuis 2 semaines. Voilà, alors d'abord je vais mettre peut-être à jour un tout petit peu certains chiffres. Le règlement orphelin est en place depuis l'an 2000. Il est effectivement un succès et fait à l'initiative de la France. Annie Wolf a été le moteur, comme elle a été ensuite celui du règlement pédiatrique qui est aussi en place depuis 2007. Donc le bilan est quand même relativement positif. Il y a plus de 2200 désignations orphelines et on arrive à 200 produits orphelins approuvés, ce qui est le plus important parce que c'est ça qui sert les patients. Les régulateurs ne sont pas la fin de l'histoire. Bien évidemment, une autorisation, c'est seulement une étape de l'accès aux patients. Et ça, c'est très important et nous, on est très clair là-dessus. Nous ne faisons qu'une partie du trajet. Bon, alors cette partie du trajet, on l'a fait avec les patients. Le comité des médicaments orphelins à l'agence qui réunit un représentant par État membre a aussi 3 professionnels de santé et 3 représentants de patients comme membres à part entière qui prennent des applications, qui les évaluent comme tout le monde. Donc, ils sont vraiment une partie prenante et ils ont été moteurs et déterminants dans le travail qu'on a fait toutes ces 20 dernières années. C'est la même chose pour le règlement pédiatrique qui est complémentaire. Et nous avons mis en place des structures bridge de pont entre la pédiatrie et les orphelins. Donc, la pédiatrie n'est pas oubliée. On peut toujours dire qu'il faudrait plus, mais il y a quand même 400 médicaments approuvés pour les enfants depuis 2007. Et il y a 50 formes pédiatriques, purement pédiatriques, qui ont été approuvées aussi. Donc, il y a un succès. Et ce succès repose sur un mélange d'incitation, d'aide à l'industrie et de récompense pour le travail fait. Alors, dans le cas des médicaments orphelins, c'est une protection des données et du marché, c'est-à-dire qu'une fois que le médicament est approuvé, seulement une fois qu'il est approuvé, pas désigné, ce médicament ne peut pas avoir de copie mise sur le marché pendant 10 ans. Alors, comme toujours en Europe, nous sommes très ambivalents. Nous commençons par assurer le succès et après on dit « oh non, 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 ça marche trop bien, il faut l'arrêter ». C'est pas bien, les gens font du bénéfice sur ce projet. Moi, je trouve que c'est un non-sens parce que l'objectif était de récompenser le développement des médicaments orphelins. C'est un grand succès. Ça a transformé le paysage. Donc, si on supprime ce qui a fait le succès, on va retourner à la situation précédente avec peu d'intérêt des firmes pharmaceutiques qui n'ont pas à se cacher d'être basées sur le profit. Alors, on peut dire c'est trop de profit, c'est pas assez de profit. Glivec était un exemple qui a scandalisé les gens, mais moi, je trouve ça un succès. C'est un produit qui a été innovant, qui a transformé le pronostic des malades avec des cancers rares et qui a été développé dans plusieurs formes de cancers. Donc, là encore, je plaide pas pour une compagnie plutôt qu'une autre, mais juste pour dire que le modèle est là, c'est un peu comme gagner à la loterie. Si vous supprimez le premier prix de la loterie, personne n'achète de ticket. Donc, c'est très important de garder les incitations. Alors, au niveau de l'agence, ce que nous faisons, en particulier pour les médicaments des maladies rares et aussi les médicaments pédiatriques, c'est que nous ouvrons la porte largement, nous entrons en dialogue avec les firmes pour les aider à développer correctement les produits, pour être sûr que les essais, les études qu'ils font sont celles qui vont convaincre les régulateurs. Et nous avons démontré que cette aide, et si les firmes suivent les conseils qu'ils reçoivent, cette aide leur donne plus de chances d'avoir un avis positif, une opinion positive. Et après, la Commission européenne prend la décision administrative. Donc, c'est vraiment très important alors, toutes ces décisions, à la fois en termes de conseils, de désignation orpheline, d'autorisation, sont prises avec des patients acteurs et décideurs du bénéfice-risque. C'est très important. Nous voyons arriver des produits innovants, le gene therapy, excusez-moi, j'ai un peu travaillé en anglais avant, donc la thérapie génique, les thérapies cellulaires. Nous voyons un changement de paradigme avec la transformation d'un traitement palliatif vers des traitements curatifs. C'est celui qu'on a vu dans la myotrophie spinale infantile récemment. Tout le monde a poussé des cris en termes de prix. Bien sûr, c'est cher, mais pensez à 20 ans de handicap et d'assistance sociale pour ces enfants. D'abord, leur pronostic à eux est différent, mais en plus, s'ils sont guéris, ce sont des choses qui disparaissent pratiquement totalement. Donc, on est dans une différence d'approche, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas réfléchir soigneusement. Et la France, là encore, est pionnier avec le plan maladie rare, le troisième, mais dès le premier, en montrant qu'il y avait une attitude au niveau gouvernemental qui est nécessaire pour prendre en charge les maladies rares et pas les traiter comme une maladie, parce qu'elles passeraient sinon toujours en dernier par rapport aux priorités que sont le diabète, l'hypertension ou le cancer. Donc, l'approche identifier les maladies rares comme un domaine qui doit être traité de manière différente et approchée, c'est très important. Et je pense que c'est ça qui fait le succès. Ce n'est pas parfait, mais ce sont des étapes progressives. On ne change pas une situation qui existait depuis plusieurs siècles en quelques jours, ni en quelques années. Ça prend du temps. Il faut pas être patient. Il faut s'impatienter, mais il faut en même temps comprendre que tout ne peut pas arriver en même temps. Alors, il y a un projet au niveau de la Commission européenne de revoir le règlement orphelin et le règlement pédiatrique, en particulier basé sur cette misconception que le profit est quelque chose qui est un péché, et donc un péché mortel, et qu'il va falloir régler ce problème, et qu'il y a des abus. Pour moi, le plus grand problème est qu'il y a 6 ou 8 000 maladies rares et nous avons adressé ou géré quelques dizaines ou centaines de domaines, mais on n'est pas à 6 ou 8 000 domaines. Et on voit arriver pour la même maladie plusieurs produits qui ne sont pas exactement identiques, donc qui ont quand même accès au marché. Et par contre, on ne voit pas de recherche ou on voit peu de recherche qui débouche sur un traitement dans certains domaines. Et c'est plutôt ça qu'il faut encourager, qu'il faut changer. Ça n'est pas en réprimant ceux qui ont fait leur travail comme attendu, c'est en développant d'autres domaines et en faisant de meilleurs ponts entre la recherche fondamentale qui existe dans certaines maladies et qui n'est pas transformée en une recherche sur le traitement. Et ça, c'est à mon avis là qu'il faut investir. Je salue la présence des étudiants. Je pense que si les étudiants sont impliqués, comprennent ce qui se passe et peuvent aider, on va transformer encore mieux, parce qu'il y avait quelques experts qui étaient intéressés dans les maladies rares il y a 20 ans, mais il n'y en avait pas tellement. La plupart des médecins passaient à côté des maladies rares, comme on le sait. Donc, ce changement d'état d'esprit est important pour transformer fondamentalement la société. Donc, je vais m'arrêter là, mais je peux encore parler pendant des heures si vous voulez, mais je vais m'arrêter là. Mais je veux dire qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas l'abus pour moi. Le combat, c'est comment faire que la recherche se dirige vers les maladies qui en ont besoin et toutes ces maladies rares qui, pour l'instant, ne bénéficient pas de traitement et espérons-le un jour de guérison. Merci.
Merci beaucoup. On va passer à Madame Lapointe. Avec l'arrivée de la présidence française au Conseil de l'Union européenne à partir du mois de janvier, on va avoir, espérons-le, un réel poids sur ces sujets. En particulier, la France avait été motrice sur le champ des maladies rares, comme on a pu le voir précédemment. Et quels sont pour vous les grands enjeux en la matière pour l'Union européenne? Et est-ce que vous avez pu identifier des freins à l'accès aux soins ou au diagnostic pour les personnes atteintes de maladies rares, qu'il s'agisse de la formation des professionnels de santé en particulier? Et je souhaitais également vous poser la question de comment sera organisé le dialogue entre les acteurs dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et quelle sera en particulier la place des étudiants dans ce dialogue, bien sûr.
Très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'espère qu'en 5 minutes, je vais pouvoir un petit peu organiser mes réponses à ces questions. Je revenais juste à ce que vient d'être dit. Je crois qu'il y a une question d'équité aussi. On n'est pas dans la notion d'égalité, c'est-à-dire que les maladies rares sont complexes, à la fois pour leur diagnostic, pour leur prise en charge, à la fois pour le côté curatif, pour trouver des traitements. Et en fait, cette quête d'équité et pas d'égalité fait que ça nécessite d'avoir vraiment une coordination et des actions spécifiques propres aux maladies rares, je dirais un peu designées par rapport à ce contexte. Et c'est important pour cela qu'on s'appuie. Alors, mon propos va s'appuyer sur trois axes. Et je crois qu'à l'origine de tout, on a eu quand même un mouvement associatif très fort à partir des années 80. C'est issu également de tout le mouvement autour du VIH qui s'est structuré. Et je suis ravie qu'on ait entendu parler d'Annie Wolf parce que nous aussi, nous sommes des enfants au ministère, à la mission maladies rares et au premier plan maladies rares de cette volonté politique et de personnes comme Annie Wolf, Simone Veil, qui ont écouté en fait la parole associative des années 80-90 et qui ont fait des états généraux en 96, qui ont posé les bases de toute cette réflexion. Donc, je voulais d'abord partir de cette origine parce que on parle d'actions qui sont patient centrée, mais je crois aussi que c'est l'origine de notre rôle de leader, tous ensemble, et ce n'est pas que le politique, mais c'est vraiment tous les acteurs qui sont leaders pour les maladies rares en France, mais ça vient de cette origine-là, parce qu'on a vu que cette parole, et notamment la parole associative, était absolument centrale, et dans notre action, l'origine, finalement, est partie de l'Europe, parce que Eurordis a été créé en 90, en 97, on a eu Orphanet qui est arrivé au même moment, et curieusement, c'est vraiment cette impulsion européenne qui a donné cette dynamique française. Donc c'était mon premier point, le deuxième point, et ensuite je reviendrai sur l'Europe, mais il faut donc, la conclusion de ce premier point, c'est qu'il faut donc une volonté politique forte. Donc on a vu qu'il y a eu petit à petit une coordination entre la volonté politique forte française avec un premier plan maladies rares 2004, deuxième plan, troisième plan. Et en parallèle, on a eu des acteurs également associatifs et puis politiques français qui ont poussé au niveau de l'Europe à ce qu'il y ait une structuration des parcours, aussi des parcours de soins autour des maladies rares et la nécessité de mettre en place des plans maladies rares, des réseaux de référence, des centres de référence labellisés, et que si on veut porter une politique européenne ambitieuse, on doit s'appuyer sur des structurations très solides au niveau des parcours de soins, également au niveau national, et que c'est quelque chose qui, en fait, donne les fondations de ce qu'on pourra après construire au niveau de l'Europe. Donc, je crois qu'au niveau, à ce niveau-là, c'est toute la notion de coordination. On a beaucoup entendu parler de transdisciplinarité. Je pense beaucoup à cette coordination et à ce maillage qu'on doit avoir après, qui soit fin et qui aille jusqu'au territoire. Et j'ai entendu ce qu'a dit Angélique, et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que cette coordination, elle doit s'appuyer pour pouvoir accompagner le fardeau qui est celui de la maladie rare. Et c'est quelque chose qui est qui demandent un accompagnement qui soit bien au-delà de la prise en charge du traitement, du soin en tant que médical, mais c'est le prendre soin beaucoup plus large qui est en jeu, parce que derrière, c'est du répit, c'est de l'essoufflement pour les familles. Il y a énormément d'impacts négatifs, en fait, qui peuvent après rejaillir sur la santé. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision absolument globale, je dirais holistique, de la personne et de l'aidant pour pouvoir accompagner au mieux. Et dans cette notion d'Europe, d'un côté, où on a des ambitions très fortes, et de l'accompagnement là où est la personne, la famille. Ce qu'on a souhaité avec le troisième plan maladie rare, c'est de mettre en place des plateformes d'expertise maladie rare. Donc là, on a validé 19 plateformes d'expertise maladie rare qui vont être au plus près de là où habite la personne malade. C'est-à-dire que la personne malade peut avoir à faire 400-500 km pour aller dans son centre de référence, mais il peut aussi avoir à proximité une plateforme d'expertise maladie rare qui va pouvoir l'accompagner aussi pour les démarches, je dirais, MDPH, un accompagnement aussi avec les acteurs locaux. Et ça, c'est important aussi de pouvoir avoir cet élément-là. Donc, on voit que cette volonté politique forte, elle est essentielle. On doit s'appuyer donc sur ces centres qui sont vraiment un maillon indispensable. Et pour cela, on a eu, comme Angélique l'a rappelé, en 2017, la mise en place de 24 réseaux européens de référence qui sont pour nous vraiment les têtes de pont de ce qu'on doit faire en articulant dans un dialogue constant entre l'européen et le national et entre le national et l'européen. Donc ces 24 ERN, on a la chance d'avoir eu des coordonateurs pour un tiers, pour 8 réseaux qui soient français. Et on a un enjeu qui est majeur pour l'Europe et pour nos réseaux européens, les 24, ça va être autour de la data. Et je pense que là, on retrouve autour des données de santé le point sur se donner les moyens d'être innovant, d'être ambitieux. Ça passera très certainement sur cette donnée de santé qui est tellement précieuse pour les maladies rares qu'elle ne peut se réfléchir qu'au niveau au moins européen. Donc ça, c'est vraiment le point où tout doit converger. Et par rapport à notre politique française, l'Union européenne, il ne faut pas rougir. Moi, je travaille avec des gens qui sont très impliqués au niveau de l'Europe, au niveau du ministère, notamment au niveau du European Health Data Space, avec vraiment une impulsion très forte de la France qui souhaite peser sur la donnée de santé européenne. Donc ça, je pense que c'est un point très important. On a toutes les négociations aussi et tout le travail de tout le financement de EU for Health. Donc ça aussi, on doit pouvoir aussi dire ce qui est important pour nous et quels sont les sujets que l'on souhaite porter. C'est dans ce EU for Health que nous avons le financement de nos réseaux européens de référence. Donc c'est important de leur donner aussi les moyens et c'est pour ça qu'on rappelle, la France aura la présidence française de l'Union européenne en janvier et on a la volonté de pouvoir porter notre sujet maladie rare à un haut niveau avec notamment le trio de la présidence pour pouvoir justement présenter l'importance d'avoir une politique coordonnée nationale et européenne, à la fois pour prendre soin, pour également travailler au niveau de la recherche. On voit bien toute l'importance de l'OGPRD qui est portée par l'INSERM, qui a une dynamique de plan maladie rare pour la recherche européenne qui est très important, et puis pour l'innovation. Donc ça, c'est trois volontés qu'on souhaite porter pour cette ambitieuse, pour cette présidence française de l'Union européenne, et pour avoir discuté avec le président de France Biotech, j'avais été marquée par le nombre de sociétés françaises de biotechnologie qui ont des désignations orphelines. C'est quelque chose de très, très important. Et ça montre bien dans ces désignations orphelines, derrière, ce sont des thérapies innovantes. Et derrière des thérapies innovantes, très souvent, on a une maladie rare. Donc, c'est important pour nous d'accompagner le mieux possible aussi cette innovation grâce à nos réseaux européens qui doivent vraiment porter aussi ce développement de la recherche après un développement clinique. Et on voit bien qu'au niveau européen, des essais cliniques structurés de façon européenne et coordonnée, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Donc, je crois que, et à la base de ça, Chloé l'a très bien expliqué, on a la formation. C'est-à-dire qu'en France, pour les maladies rares, on parle de pédagogie du doute, et si c'était une maladie rare, mais il faut aussi pouvoir mettre cette formation déjà dans l'enseignement initial. Donc ça, on a une petite victoire depuis l'année dernière pour les étudiants en médecine qui maintenant auront dans leur étude de médecine initiale une formation sur les maladies rares. En tous les cas, pas les 6 à 8 000, mais et si c'était une maladie rare, quelles sont les ressources, comment je me réoriente. Et de la même manière, au niveau européen, nos 24 ERN, clairement, un des objectifs de ces réseaux européens, c'est la formation. Et ça, vraiment, il y a une très, très forte dynamique qui était appelée depuis longtemps et avec l'idée aussi d'une mobilité. On voit bien que les étudiants souhaitent aller se former dans d'autres pays, tourner, et avec l'idée d'une mobilité aussi entre pays. Donc, je pense que ces ambitions fortes, il faut vraiment qu'on puisse les soutenir entre ministères, nous avec notre ministère de la Recherche, parce qu'on doit accélérer, parce que derrière, ce sont des familles qui attendent des traitements, des aidants qui souhaitent accompagner le mieux possible, et puis des professionnels qui sont très engagés pour pouvoir travailler au mieux et qui souhaitent apporter des solutions. Donc voilà l'idée de cette coordination avec tous les acteurs, et les acteurs associatifs ne sont pas que de la démocratie sanitaire et de la parole du côté du soin, mais ce sont aussi des acteurs de la recherche et ils améliorent le process également de la recherche pour les maladies rares.
Merci beaucoup et je suis ravie de vous avoir entendu parler de comment orienter les personnes pour les maladies rares, parce que moi c'était pas quelque chose qui était dans ma formation lors de mon cycle initial de médecine. Et en effet, c'était à mon sens ce qui manquait vraiment sur les maladies rares, c'est d'apprendre. J'ai quelque chose que je ne comprends pas forcément et que je suspecte, et comment je vais orienter cette personne et comment je vais la mettre dans le bon circuit de prise en charge pour qu'elle ait le bon diagnostic et le bon accès au traitement. Et ça, c'était vraiment quelque chose de manquant. Et je suis ravie de voir que ça a pu changer. Je tenais à vous remercier tous pour ces interventions très intéressantes. On a vraiment pu voir l'importance déjà d'une prise en charge globale du patient, de ses aidants, avec une prise en charge interdisciplinaire, une véritable coordination des soins, et ce sujet de coordination des soins qu'on voit revenir très régulièrement, avec associé à ça la sensibilisation de l'ensemble des professionnels au diagnostic, à savoir penser aux maladies rares, et la place centrale des associations dans l'accompagnement, la sensibilisation également, et la vraie question de comment on passe de la recherche fondamentale à un traitement concret pour les patients, quel accès à ces traitements, et également l'équité de prise en charge qui est revenue dans beaucoup d'interventions et qui me semble quelque chose de majeur. Je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle après ces propos très intéressants. Est-ce que ceux qui ont des questions peuvent lever la main ? Il y a Younes qui a une question. Si on peut lui donner la parole. Yep.
Merci Isabelle. Alors, le sujet pour ma part, le sujet des maladies rares m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai complété mon cursus de pharmacie par un master sur les thérapies géniques, thérapies cellulaires. Et on y abordait beaucoup les questions liées aux maladies rares. Et enfin, avec des cours qu'on n'avait pas forcément dans nos cursus de pharmacien. Ma question, elle va aller particulièrement à vous, Angélique, parce que la cause des malades, enfin, je suis beaucoup attaché à la cause des malades, plus encore depuis que je travaille avec Olivier chez Nil. Et est-ce que vous, de votre côté, et au regard de tout ce qui a été dit là, du côté des associations, peut-être plus particulièrement du côté des bras, vous vous sentez audible sur est-ce que vous sentez que les acteurs comprennent l'expérience que vit un malade quand il est atteint d'une maladie rare ou il y a encore une difficulté à faire passer vos messages?
Je dirais que ça, c'est très variable, déjà selon les interlocuteurs, mais ça reste encore, moi je trouve, difficile de faire sa place. Je côtoie assez régulièrement un monde associatif qui a encore souvent, qui a souvent un peu peur de poser des questions, de savoir, d'essayer de comprendre en fait, parce que c'est aussi ça la problématique, c'est que c'est pas toujours facile pour nous de comprendre comment fonctionnent tous ces réseaux, quelles sont les difficultés, les problématiques. Il y a aussi peut-être, je dirais, quelque chose qui m'interpelle beaucoup régulièrement aussi, c'est la question de la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'on va faire appel à nous sur certains points, sur certains sujets, mais qui restent souvent génériques, en fait. Dès qu'il s'agit de rentrer dans du concret, parfois, par exemple, sur tout ce qui est RCP, des choses comme ça, où on va pouvoir discuter de patients, là, on est plus en mesure d'assister par rapport à cette confidentialité. On peut se demander si on peut aider sur certains points, si notre expertise est valable sur certains points. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer qu'on est digne de confiance, quelque part, sur des sujets qui pourraient aujourd'hui relever davantage de la confidentialité? Et je trouve que c'est deux mondes qui ont encore trop souvent du mal à communiquer. On a encore trop souvent du mal à faire un pas les uns vers les autres, très certainement, pour mieux comprendre nos contraintes, nos problématiques, nos vies. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste souvent deux mondes quand même. Voilà. Je pense qu'en tout cas, il y a une caractéristique indispensable sur nos maladies rares, c'est l'humilité. Et effectivement, on constate bien que c'est avec tous les acteurs qui font preuve d'une grande humilité que cet échange et ce partage est réellement là. Et heureusement, il y a aussi de très nombreux acteurs qui sont comme ça. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, François.
Oui, bonjour à tous. François Dib, vice-président en charge des affaires européennes de l'ANEP, Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Alors, j'aurais une question pour rebondir à ce que vous venez de dire, Madame Sauvestre. Est-ce que c'est dit pendant cette table ronde qui était très intéressante d'ailleurs. Pensez-vous que l'Union européenne détient actuellement les armes, de par ses agences et les instances déjà mises en place, pour aider à une potentielle collaboration entre les différents acteurs et du coup la mise en place de ces différents outils qui permettraient une amélioration de la situation?
On voit bien qu'il reste encore beaucoup de... Alors, partiellement, hein, très clairement partiellement, puisque effectivement, on voit bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à l'Europe en termes d'harmonisation pour arriver à travailler ensemble. Moi qui essaie de faire une sorte d'état des lieux, en fait, des prises en charge de notre maladie au sein de l'Europe, je vois bien les disparités en termes de prise en charge du suivi psychologique, prise en charge des pansements, les associations qui sont aidées par leurs états, celles qui ne le sont pas, celles où les frais de transport pour se rendre dans le centre expert sont prises en charge, celles qui ne le sont pas. Enfin, je veux dire, rien que déjà ce travail-là, il est énorme en fait. Et on se dit, ouais, en partant de là, comment on fait pour aller comparer ce qui est comparable? Donc, effectivement, vous soulevez un bon point, une bonne question, avec des points de départ aussi divergents. Comment proposer des solutions communes?
Pour répondre, je pense, et Dr Saint-Raymond l'a bien précisé, au niveau réglementaire, les choses sont claires, je dirais. L'Europe, avec l'agence européenne, avec la désignation PRIME, les essais cliniques, les ODD, là, on a un circuit qui est homogène. Après, l'hétérogénéité, en fait, commence une fois qu'on va aller dans des procédures nationales. Ça veut dire l'évaluation, les remboursements, le remboursement du médicament ou le remboursement de ce qui est autour aussi. Même les aidants, par exemple, les aidants ne sont pas regardés en France comme dans d'autres pays. Donc là, il y a une hétérogénéité que l'Europe doit essayer d'harmoniser et harmoniser vers le haut, pas vers le bas. Hein. C'est toujours cette notion qui est importante. Donc c'est là où la disparité arrive. Après, évidemment, il y a encore des choses à améliorer au niveau réglementaire, parce que le processus est long, mais on voit bien le point de dire qu'il y a certaines maladies, il y a de la recherche fondamentale, ça n'arrive pas jusqu'à la clinique, ça c'est fondamental, il faut y aller. On a, avec l'orphelin, on a résolu certaines maladies, mais il y en a plein. En plus, la génomique aujourd'hui nous permet d'aller plus loin. Donc, il faut prendre les innovations à bras le corps, mais il faut résoudre l'hétérogénéité nationale. Je pense que c'est un grand sujet, l'hétérogénéité nationale, et même si on regarde, par exemple, la disponibilité des produits d'un pays européen à un autre, elle n'est pas les mêmes. Par exemple, la France, on a l'accès précoce qui est une bonne chose, mais malgré l'accès précoce, par exemple, on a des traitements de maladies orphelines qui ne sont pas disponibles, et il y a des sociétés qui se retirent, par exemple, de l'Europe aujourd'hui, pour des raisons, par exemple, des thérapies géniques qui disent qu'il n'y a pas un cadre de remboursement pour la thérapie génique. Donc, il faut qu'on soit attentif et que l'Europe essaye de mettre un cadre, même qui arrive au niveau national, plus équitable.
Moi, j'avais une question pour l'ensemble d'entre vous sur la question des données qui a été évoquée à la fin par Madame Lapointe. C'est comment est-ce qu'on pourrait voir une grande base de données sur les maladies rares au niveau européen pour pouvoir avoir des cohortes, pouvoir avoir des travaux sur ces données, et en particulier la question de l'accès aux données génomiques qui, sur une base de données maladies rares, ne peut pas être exclue, qui pose question régulièrement déjà au niveau national.
Moi, je veux bien commencer. J'ai très souvent l'impression que là-dessus, RGPD, en tout cas sur notre cause des maladies rares, est plus un frein à handicap qu'une aide, je dois bien l'avouer. On voit bien que ça complexifie considérablement la création de ces big data. Et sans ça, on ne peut pas pourtant envisager de recherche. On est obligé de raisonner sur nos maladies rares au niveau international en termes de recherche. Et la base de tout ça, c'est d'avoir des registres consolidés avec des datas, enfin des critères qui soient voilà, forcément mis en commun entre les pays. Et il reste beaucoup de travail. Enfin, ça, je le dis souvent, hein, on a deux échelles de temps. Il y a différentes échelles de temps entre ceux qui vivent la maladie au quotidien et ceux qui travaillent autour. Sur ce thème-là, je trouve que les échelles de temps sont exacerbées.
Je crois qu'il y a Madame Saint qui veut répondre également.
Oui, je voudrais commenter sur plusieurs sujets. Le premier, c'est effectivement les données. On est dans un paradoxe où on a un règlement sur les données personnelles qui est extrêmement contraignant, qui n'a pas été fait pour les données médicales. En même temps, on a le souci des patients qui l'ont exprimé très clairement aussi, de ne pas voir leurs données disséminées à tout le monde, aux assurances, au gouvernement et autres. Donc, on est dans une situation difficile où respecter les données personnelles et en même temps gérer la science et gérer le progrès qui repose sur un partage des données. Parce que spécialement pour les maladies rares, les malades étant peu fréquents, il est très important de mettre les données en commun. Parce qu'on ne peut pas conclure sur un cas, on ne peut pas conclure sur 10. Plus il y en a, mieux c'est pour ce qui est de la science. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Mais je dois dire que le règlement européen, ça je dis commentaire tout à fait personnel, on est tombé sur la tête. Je veux dire, nous, ça nous empêche d'envoyer un email. Si on applique la loi, je ne peux pas envoyer un email aux États-Unis. Parce que je ne peux pas disséminer un email en dehors de l'Union européenne. Donc, on est tombé sur la tête. Et ça n'a plus rien à voir avec la vie réelle en 2021. Bon, cela dit, changeons de sujet. Je pense qu'il va falloir qu'on on arrive à trouver un équilibre entre ce que les patients veulent quand il s'agit de la science et ce qu'ils veulent quand il s'agit de leurs données personnelles. Et ça, il va falloir un compromis, des concessions, parce que sinon, on va tourner en rond en disant « oui, mais non », et on n'avance pas. Donc, c'est quand même très important d'être clair là-dessus. Je pense que les associations de patients ont un rôle très important dans cette détermination, mais il faut aussi qu'ils soient eux-mêmes clairs sur ce qu'ils acceptent, parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Et ce n'est pas à nous de prendre la décision pour eux, c'est à eux de prendre la décision pour eux-mêmes. Hein, très clair aussi. Et moi, je vais revenir quand même sur l'accès aux médicaments. On voit, après une autorisation qui est toujours communautaire de l'Union européenne, parce que c'est le système qui l'oblige, on voit qu'au niveau de la transparence, c'est-à-dire en fait de la non-transparence, de l'évaluation du bénéfice rendu, de l'évaluation du prix, il n'y a plus du tout de transparence. Il y a une approche nationale, même si nous travaillons déjà avec les autorités qui s'occupent de HTA, de Health Technology Assessment, après, c'est une décision nationale et comme on le voit, elle est toujours incohérente. Elle est toujours différente suivant les pays. Et du coup, nous voyons que les petits États membres n'ont pas accès aux médicaments. Et ça, c'est une inéquité qui est inacceptable. Et donc là, à mon avis, l'Europe a quelque chose à faire, c'est à mettre en commun ses ressources, arrêter de faire du nationalisme et faire de l'internationalisme, parce que c'est contraire aux intérêts des patients. Et c'est toujours les petits États membres qui s'en sortent mal. L'Allemagne a les moyens, la Suède a les moyens, la France a les moyens, mais Malte, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie n'ont pas les médicaments. Donc déjà, il y a aussi et le niveau de développement des associations de patients est aussi très inégal. Donc il n'y a pas le même soutien dans l'Est de l'Europe que par rapport au Reste. Pardon d'avoir dévié du sujet des données personnelles.
Et je crois que Madame Lapointe voulait aussi répondre sur ce sujet.
Oui. Oui. C'est un sujet qui est fondamental, un grand merci. Et j'étais très intéressée, effectivement, de cette dernière prise de parole. Mettre en commun les ressources est absolument essentiel. C'est quelque chose qui est l'enjeu de nos 24 réseaux européens de référence, qui ont des missions maintenant, je dirais presque un peu supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait au départ de ces réseaux européens. Et la question des registres, et la question d'une RCP européenne fait partie des deux missions supplémentaires qu'ils ont. Donc, cette notion de données, elle est au cœur du sujet de nos réseaux européens de référence. Comment on peut, dans ces cas-là, mettre en place ces registres ? En discutant, parce que je suis vraiment en lien constant avec nos réseaux français, hier, on a un réseau, notamment le réseau Itaca, qui est très participant, et son coordonnateur Alain Verleus a participé au début de la BNDMR, notre Banque Nationale des Données Maladies Rares, donc il connaît très bien toutes les questions de registre. Et la question, en fait, c'est que maintenant, il va avoir un réseau qui va passer de 51 HCP à 71 HCP sur quasiment les 27 pays. Je crois qu'il y a deux pays qui manquent. Donc, on voit bien qu'il faut pouvoir concilier avec des données et des législations spécifiques à chaque pays. Et donc, sa réflexion, mais je sais qu'elle rejoint la réflexion de bien d'autres partenaires, c'est qu'en fait, on doit avoir une politique qui est articulée nationalement et de façon européenne. Donc, on a des multi-bases, je dirais, qui sont implantées dans les différents pays sur le sujet de la donnée qui nous intéresse dans la maladie rare qu'on recherche. Le clinicien a la clé pour pouvoir voir ses patients et puis ensuite pseudonymiser ses données. Et c'est qu'ensuite, à l'échelle européenne, on peut pouler ces données, mais qui auront été pseudonymisées pour pouvoir leur donner une force élargie et arriver à un montant de données suffisant. Et donc, je pense que d'un point de vue pragmatique, avant qu'on réussisse à avoir un registre européen, c'est en tous les cas déjà une réflexion qu'on peut avoir à court terme, en tous les cas, de solutions pratiques pour pouvoir mettre en place ces registres européens, mais qui s'appuieraient sur des registres qui seraient locaux et avec nos HCP des différents ERN. Donc ça, c'est vraiment une piste de réflexion qui est vraiment en cours à l'intérieur des ERN. Et là-dessus, je pense qu'il faut surtout, ce qui est la question par rapport aux associations et aux patients, c'est la confiance. Et derrière, ça nécessite d'être absolument hyper rigoureux sur la sécurité, les informations, ce qu'on fait de ces données. Et justement, là aussi, ça demande de la pédagogie pour les professionnels et que ces données ne soient pas échangées lors d'une Webex ou un Teams ou je ne sais pas quoi, mais qu'il y ait déjà la base de messagerie sécurisée qui soit utilisée par les professionnels de santé. C'est déjà le niveau 1 pour pouvoir avoir cette confiance sur la sécurité des données et de ce qu'on en fait. Et ça, ça nécessite aussi de la pédagogie.
Merci. Et je crois que Chloé voulait également rebondir.
Alors, c'était plutôt une question que je voulais... C'est pour un sujet complètement différent. C'était une question notamment au docteur Agnès Saint-Raymond. Pardon. Vous avez parlé tout à l'heure de faire de l'internationalisme beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui passe d'abord, pour pouvoir faire un peu cette transition, c'est quelque chose qui passe d'abord par une sensibilisation des jeunes professionnels de santé ou des futurs professionnels de santé. On voit bien, notamment par exemple avec l'agence le CDC, qu'ils font pas mal de podcasts ou bien de formations. Ils sont assez proches des jeunes dans le sens de la formation, mais des choses très accessibles. Est-ce que vous pensez que l'agence, l'EMA, aurait quelque chose à apprendre, entre guillemets, de cette pédagogie envers les professionnels de santé, notamment les pharmaciens qui sont très présents dans cette agence?
Vous êtes en mute, Agnès. On ne vous entend pas.
Pardon, j'étais doublement silencieuse. Oui, merci. On peut toujours apprendre de tout le monde. Et donc, il y a toujours des bonnes idées à prendre ailleurs et nous ne sommes pas différents. L'agence a déjà en place un certain nombre de structures de formation. En particulier, il a un groupe permanent qui travaille avec les professionnels de santé, donc les pharmaciens, les médecins et les infirmières, etc., qui prend en compte leurs demandes, qui répond. Nous avons un centre de formation international, européen d'abord, mais international. Et là encore, je voudrais insister, l'Europe, c'est déjà voir trop près. Il faut penser international. Sur les maladies rares, ça n'a pas de sens de se limiter à l'Europe. Il faut aller voir. On travaille déjà avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Japon, avec l'Australie tous les jours. Donc, c'est quelque chose, en particulier pour les maladies rares, qui est inévitable, essentiel et nécessaire. Mais pour la formation des jeunes, certainement, nous avons des stagiaires tous les ans à l'agence. Bon, c'est un petit groupe, mais déjà sur des gens qui sont exposés à ce qu'on fait. Et il y a des, comme je le disais, il y a des groupes. Mais on a mis en place, bon, Covid a changé un peu les choses parce qu'on n'a pas pu faire de réunions en présentiel, mais nous avions deux fois par an des réunions de présentation de ce que fait l'agence pour entrer en dialogue avec des gens. Alors c'est gratuit. À ce moment-là, il fallait juste venir à Londres ou à Amsterdam, maintenant, mais ce qui est pas mal comme petit week-end sympa. On va les reprendre parce que ça avait de plus en plus de succès. On a eu 50 personnes la première fois, 100 la deuxième, etc. Donc, et quand on fait des formations en webinar, on a facilement 300 ou 400 personnes. Donc, c'est tout à fait, ça fait partie des choses qu'on fait déjà, mais qu'on peut certainement faire mieux. Et je dirais, pas à moi, mais écrivez, et je vous dirai à qui. On verra comment on peut se mettre en contact avec... On a même une structure dédiée à l'agence qui s'occupe des professionnels de santé.
Et il y avait Monsieur Barocchi qui demandait la parole.
Moi, je vais revenir sur un point qui a été dans les données. Nous, côté industriel, on voit un peu, surtout en génomique, quand on regarde les biobanques, c'est quelque chose, un sujet très important pour la recherche et pour le développement des traitements derrière. On voit bien que, par exemple, la Grande-Bretagne a pris une échappée. On le voit aussi dans la crise Covid au niveau génotypage des variants. Ils étaient leaders versus notre plan génomique. Désolé, hein, je dirais, on est lent. Il décolle, mais... Hein, et il n'y a pas un plan européen. Aujourd'hui, nous, industriels, pour rien vous cacher, on a la biobanque au UK et les expériences au niveau finlandais. et la France est absente, et l'Europe, pareil, est absente sur un secteur qui est les traitements de demain, qui est les… Donc, moi, je pense… je ne suis pas technique dans le plan génomique, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être mis. Il y a deux approches. Soit on prend ce qui sort du terrain et on essaye de construire quelque chose de grand avec toute la complexité des gens qui veulent ça, qui ne veulent pas ça. Soit on met un cadre structurant dans lequel les gens peuvent rentrer ou pas rentrer. C'est, je pense, deux approches intellectuellement différentes. Potentiellement, dans la donnée, on a choisi du bottom-up, comme on dirait, qui complexifie les choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens au niveau européen d'avancer? C'est un questionnement parce que le retard est énorme. Ici, il faut le rattraper. Hein.
Isabelle, vous semblez avoir reçu M. Goldberg qui voulait la parole.
Oui, oui. Ce n'est pas moi qui ai la main pour donner la parole, mais si on peut lui donner.
Oui, je peux poser des questions?
Oui.
Je peux poser une question?
Oui, oui, allez-y.
Oui, le 28 février 2022, c'est le Rare Disease Day. Rare Disease Day. Est-ce que nous avons prévu un programme pour ça? Et j'aimerais bien vous remercier parce que ce n'est pas ma spécialité et c'était remarquable. Et j'espère que ça va être bien coordonné et bien discuté avec tout le monde, parce que cette coordination de formation, coordination, évaluation, pour permettre dans le futur des générations de mieux travailler en réseau international, c'est essentiel. Et je vous remercie tous pour tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas comment ça va être communiqué complètement à tout le monde, mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il est prévu pour le 28 février, parce qu'il y a, selon la présentation, 300 millions de personnes avec rare diseases, okay. Peut-être que ça sera plus important d'être un peu large et dire où se trouvent nos banques, où se trouvent nos patientes dans nos territoires et comment on participe à ça. Et ma deuxième question, c'est la France est membre, full member of Alliance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qu'on fait avec Alliance? Oui.
L'Alliance, je n'ai pas très bien compris, excusez-moi. Full member pour l'Alliance.
L'Alliance, c'est Rare Diseases International, et c'est un groupe où la France
RDI. Est
plein de membres.
Mais ce sont les associations qui sont membres de RDI. C'est un petit peu à part. Enfin, c'est pas à part, c'est au cœur de notre sujet.
C'est
mais
pas le TGOS qui participe.
Non. En revanche, on soutient, et je pense que tout le travail que RDI fait en ce moment avec Flaminia sur se rapprocher des objectifs développement durable de 2030. Pour moi, c'est une convergence et ces objectifs de développement durable de 2030, ils sont un peu les marqueurs que pourrait être l'évaluation de nos politiques de santé pour pouvoir avoir un meilleur accès à la santé, un meilleur soutien pour les aidants, notamment les femmes. On sait qu'il y a beaucoup de mères qui portent quand même le soutien de leur enfant tout en ayant la gestion de la maison, etc., dans les maladies rares. Il y a énormément de points qui sont dans ces objectifs de développement durable qui convergent complètement avec notre sujet maladies rares. Et là, on soutient tout à fait cette initiative de RDI qui est en fait associée à Aurore 10. Hein. C'est Yann Le Cam qui, il y a quelques années, a eu l'idée de, avec son conseil d'administration, de créer cette vision de plus large que l'Europe de RDI pour pouvoir porter la parole des maladies rares au niveau notamment de l'ONU. Et là, en ce moment, ça c'est très récent, la France s'est engagée à co-porter une résolution à l'ONU là, sur le sujet des maladies rares et justement sur ses objectifs de 2030. Et là, on a plusieurs pays qui ont vraiment soutenu cette initiative de RDI et qui vraiment se sont engagés et les consignes, nous, côté ministère, qui ont été remontés, c'est on soutient et ça maintenant c'est officiel. Au niveau des diplomates, on soutient complètement cette initiative. Donc là, je vous rejoins tout à fait sur ce sujet-là. Et sur le sujet du 28 février, on est prudent sur notre communication parce que, côté ministère, parce qu'il faut savoir que tous les 6 mois, il y a une présidence. Et que si notre présidence française, qui commence le 1er janvier, prend trop de place dans la présidence slovène en ce moment, ce n'est pas très délicat et diplomate de notre part de prendre toute la place. Donc, on a une communication qui est un peu sous embargo avant le mois de décembre, le 1er décembre, avant de pouvoir vraiment dire les choses. Mais je vous rassure quand même, sans pour autant déflorer et dévoiler quelque chose, on a effectivement pensé à ce 28 février et il y a quand même une ambition, il y a un vrai soutien, je dirais, politique de notre ministère de la Santé pour vraiment, et je sais que du côté de la recherche, ils ont également prévu quelque chose, pour qu'on ait sur ce sujet-là des maladies rares de l'Europe durant la présidence française de l'Union européenne, un vrai sujet, une vraie journée ambitieuse pour mettre à plat toutes nos ambitions pour le futur et ce qu'on voudrait porter pour les maladies rares jusqu'en 2030. Donc il y aura quelque chose et je rejoins tout à fait l'importance que vous avez de souligner qu'on devrait avoir un sujet maladies rares pendant la présidence française de l'Union européenne. Donc ça, je peux vous en assurer, il y aura le sujet.
J'ai une dernière remarque, c'est que cette présentation aujourd'hui était tellement riche en informations et valorisation que il peut être éventuellement proposé comme un cours pour les étudiants, parce que c'est justement toutes vos différentes discussions qui étaient particulièrement intéressantes et qui peut inspirer les gens de étudier et investiguer et être sensible à tout votre travail et toute cette notion. Donc, j'espère que ça sera bien avec Olivier Mériot et les différentes personnalités envisagées comme un cours pour nos étudiants. Je vous remercie beaucoup.
Bien. Oui, il me semble que M. Barucci voulait parler également. Il y a des petites interférences. Je pense qu'il y a un micro qui doit traîner. Mais M. Barucci, vous aviez levé la main, il me semble, tout à l'heure.
Non, mais j'ai oublié de la descendre. Après, je l'ai descendue. Ah. Désolé.
Moi, pour conclure, j'avais une petite question pour tous nos intervenants en guise de conclusion. Quelle est pour vous la mesure que vous voudriez voir dans le prochain plan européen sur les maladies rares? La grande mesure que vous attendez sur ce plan? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je vais commencer. Pour moi, la grande mesure, elle porte vraiment sur la donnée de santé, la data, et comment on l'intègre pour pouvoir évaluer des traitements, évaluer des parcours de soins et aller au-delà avec une vision holistique du patient. Il n'y a pas que le parcours de soins, il y a aussi son parcours de vie. Et comment on peut améliorer ce parcours grâce à une vision beaucoup plus fine et précise de la réalité.
Pour ma part, je rejoins complètement ce que vient de dire Anne-Sophie. C'est exactement ce que j'avais en tête.
Pour moi, ça serait plus justement cette coordination européenne sur la reconnaissance de la valeur ajoutée et la prise en charge du paiement pour que les pays, petits États membres, ceux qui n'y ont pas accès, parce que les patients dans ces pays-là n'ont accès à rien, qu'ils soient pris en charge et qu'on pense accès plutôt que procédure. Parce que souvent, on est content des outils, mais on oublie que les outils ne délivrent pas à la fin. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est est-ce que les patients ont vraiment accès aux traitements qui existent. Et ça, ça doit être la signe. Alors, bien sûr, tous les autres aspects pour arriver à avoir des médicaments sont très importants, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige cet aspect parce qu'il manque une étape finale.
Moi, je serais sur un continuum de la recherche jusqu'à l'accès aux patients. il faut qu'on trouve un système holistique d'innovation souveraine européenne. Les petites biotech françaises qui ont des orphan designations, il faut qu'elles arrivent elles-mêmes à les mettre sur le marché. Donc, c'est un peu ce modèle économique. C'est des petites briques. Il y a des briques plus prioritaires que d'autres. Mais avoir une vision large pour dire, c'est un travail de 10 ans, 20 ans peut-être, mais y arriver, parce que c'est fondamental pour nous, nos enfants, nous, la société de science qu'on veut faire. C'est hyper important d'aller vers ce sens-là en incluant tout le monde, tous les acteurs.
Pour ma part, je rejoins totalement Agnès Saint-Raymond, mais c'est aussi d'un point de vue étudiant, nous, on aimerait vraiment pour une construction solide et pérenne que les étudiants en santé soient un peu plus inclus et plus sensibilisés, histoire que tout ce qui sera mis en place aujourd'hui puisse être développé et plus ancré dans nos pratiques dans les années à venir.
Merci beaucoup à tous pour cette conclusion qui reprend, je pense, l'ensemble de ce qu'on avait pu un peu évoquer autour de cette table ronde. Je tenais à remercier tout d'abord l'ensemble des intervenants pour nous avoir donné ce temps ce matin et ces propos très complets sur le sujet, mais également les participants et surtout les associations étudiantes du think tank Europe de la Santé pour avoir organisé cette table ronde et qui nous montre bien que les jeunes et les assos sont vraiment moteurs sur ce sujet, ont une vraie volonté d'agir. Et je suis certaine qu'on va sortir de très belles propositions de cette table ronde. Et voilà. Merci à tous. Bonne journée et bonne continuation.